tous, bienvenue dans Santé chez vous, une chronique dédiée à la santé, animée par Aude Leloup, coordinatrice de projet de santé pour la communauté professionnelle territoriale de santé Asclépios, donc la CPTS, qui est une association qui représente les professionnels de santé libéraux. Nous retrouvons Aude une fois par mois sur l'antenne de Radioactive. Bonjour Aude.
Bonjour Marlène.
Aujourd'hui, Aude n'est pas seule puisqu'autour de cette table, nous retrouvons Christopher, Abenour et Fatima qui sont étudiants en médecine, n'est-ce pas Aude?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre stage et pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Ok. Nous sommes venus en stage à la Maison de Santé de la Croix en Touraine dans le cadre de notre service sanitaire. Il s'agit de mener une action de prévention en santé publique. Les professionnels de santé nous ont amenés à faire une action préventive sur la sédentarité auprès des jeunes. Nous allons donc vous parler d'activité physique. Nous avons commencé hier en intervenant à l'école primaire de la Croix pour le premier jour de notre intervention auprès des enfants de CM2 et nous y retournerons demain. Nous avons animé des ateliers pour promouvoir un mode de vie dynamique de façon ludique et stimulante pour les enfants. Nous souhaitons à travers cette émission aussi nous adresser aux parents. Le stage se déroulera en deux temps. Une semaine en novembre de découverte du territoire, de repérage des problématiques de santé, des acteurs, etc. C'est à ce moment que nous avons défini le thème, le public et nos partenaires.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que veut dire sédentarité ou manquer d'activité physique?
La sédentarité est définie, d'après le ministère de la Santé et de la Prévention, par une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée, caractérisée par un temps passé assis ou allongé supérieur à 2 heures par jour. À différencier de l'inactivité physique, qui est un temps d'activité physique inférieur à 60 minutes par jour, le tout d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Lorsque l'on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport. L'activité physique, c'est mettre son corps en mouvement, pas forcément dans le cadre d'une pratique sportive. Par exemple, marcher jusqu'à son lieu de travail ou alors rester debout dans les transports en commun rentre dans le cadre d'activité physique. Par ailleurs, seulement 34% des enfants et 20% des filles atteignent les recommandations d'activité physique de Santé publique France, et 70% de cette même tranche d'âge passent au moins 3 heures sur les écrans par jour. Et pire encore, 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. De fait, on recommande 30 minutes d'activité physique par jour, le tout 5 fois par semaine, avec une activité faisant augmenter la fréquence respiratoire de type cardio, comme de la marche par exemple. Le professeur Carré, cardiologue, indique qu'on n'aurait pas idée de ne pas se laver les dents la semaine, mais de se laver 7 fois les dents le dimanche. Eh bien, pour l'activité physique, c'est la même chose. Cela doit être 30 minutes par jour, en se garant plus loin par exemple, ou en mettant un pédalier sous son bureau.
Pour continuer, je tenais à dire que concrètement, on sait tous qu'il faut faire du sport et avoir une activité physique régulière, mais on voudrait vous expliquer ce qui se passe dans le corps quand on bouge ou au contraire quand on ne bouge pas.
Donc a priori, il faut un équilibre entre les apports et les dépenses. Pouvez-vous nous en dire plus?
Effectivement, quand on mange, notre corps dégrade la nourriture en nutriments assimilables par l'organisme, protéines, sucres et lipides, ce qui n'est pas utilisé par le métabolisme de base, c'est-à-dire les processus physiologiques nécessaires à l'entretien du corps, et qui n'est pas consommé par une activité et sera forcément stocké. Et les lieux privilégiés de stockage des graisses varient en fonction des sexes. Plutôt en abdominal pour les hommes, c'est ce que l'on appelle l'obésité androïde, et au niveau des hanches pour les femmes, on parle alors d'obésité génoïde. C'est pourquoi lorsqu'on consomme plus qu'on ne dépense, on prend du poids. Les nutriments en trop sont transformés en gras qui est stocké pour être utilisé en cas de besoin. Cependant, avec la disponibilité alimentaire actuelle, les situations de consommation de ces réserves sont rares, puisque nos habitudes, qu'elles soient alimentaires ou dans nos déplacements, ont largement changé. On se déplace beaucoup grâce aux transports en commun, en voiture, et très peu à pied, et on mange tous les jours, au moins 3 fois par jour. Ces réserves ne seront pas touchées à part en cas de jeûne intermittent, d'activité sportive de type HIIT ou fractionnée, qui correspond à une activité physique de type cardio très intense et très brève, comme un sprint de 30 secondes, puis la marche pendant 30 secondes, et ainsi de suite. Pour brûler ces graisses, il faut cependant avoir une activité physique assez longue.
Quelle place doit avoir le gras dans notre alimentation, de ce fait ?
Pour ce qui est du métabolisme du gras, la bile qui est produite par le foie est impliquée dans la digestion et l'absorption. Les acides gras sont intégrés dans des particules avec d'autres molécules qui sont ensuite transportées dans le sang. Dans ces grosses particules, on retrouve des molécules de cholestérol. On entend souvent parler de bon ou de mauvais cholestérol, mais à quoi ça correspond? En fait, on a deux types de particules qui transportent le gras, HDL et LDL. Le bon cholestérol est le HDL et le mauvais est le LDL. On a tendance à diaboliser le cholestérol alors qu'en fait il est indispensable à la vie. Il est nécessaire à la structure des cellules de la membrane, enfin de la membrane des cellules, et le gras est indispensable aussi à la transmission nerveuse des informations. Donc le gras est nécessaire, mais son excès est néfaste. En santé, tout peut être un poison en trop grande quantité. Le bon gras n'est pas fabriqué par le corps et a besoin d'être apporté par l'alimentation. On le retrouve dans l'huile d'olive qui est riche en oméga 9, dans les poissons gras, les noix, les avocats, etc. L'excès de gras se localise d'abord autour du foie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et si on continue à accumuler, la graisse va se localiser autour des intestins. Le problème du tissu adipeux ou du tissu gras, c'est qu'il crée de l'inflammation et que le corps se sent en permanence agressé. C'est ce processus d'inflammation chronique qui crée toutes les comorbidités liées à l'obésité. Je pense par exemple à l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Une autre conséquence de l'accumulation du LDL cholestérol est que tout ce gras en excès dans le sang va se coller aux parois et ainsi rétrécir la taille du vaisseau sanguin. Cette pathologie s'appelle l'athérosclérose. De ces gros amas de gras peuvent se détacher des morceaux, qu'on appelle des emboles, et vont circuler dans le sang et peuvent boucher les vaisseaux. Ce phénomène est responsable d'infarctus du myocarde quand l'embole se bloque dans une artère coronaire qui nourrit le cœur. On aura alors toute une partie du cœur qui ne sera plus nourrie et oxygénée et qui du coup va se nécroser, c'est-à-dire pourrir. Pareillement, ce gras dans les vaisseaux et dans le cœur va faire travailler plus le cœur puisque la taille du vaisseau diminue, donc il a besoin de plus pomper pour bien vasculariser le tissu. En gros, le tuyau d'arrosage est plus fin, mais le jardin a besoin d'autant d'eau, donc il va falloir tourner un peu plus le robinet. À terme, ce surtravail du cœur le fatigue et l'abîme, et du coup c'est l'insuffisance cardiaque. Donc le gras est nécessaire, mais il n'est pas totalement à exclure dans une tentative de régime ou autre. Au contraire, il faut savoir incorporer le gras de manière saine, avec de bons aliments et sans excès.
Alors, on a bien compris au travers de cette chronique santé chez vous qu'il était important de bouger, de ne pas rester sédentaire. C'est pourquoi Christopher a choisi une chanson super calme sur laquelle on ne va pas beaucoup se dandiner. On va écouter tout de suite « Time in the Bottle » de Jim Cross.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go.
De retour sur l'antenne de Radioactive dans la chronique Santé chez vous, où je retrouve Aude en compagnie de Christopher, Abenour et Fatima, qui sont tous les trois étudiants en médecine.
Donc Fatima, on a vu au niveau des apports, et maintenant peut-on aborder l'activité physique, les dépenses ?
Tout d'abord, il est aussi important de noter qu'une bonne alimentation couplée à une activité physique régulière permet un allongement significatif de l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que vous vivrez plus longtemps et dans de meilleures conditions. En effet, si vous mangez sainement et que vous êtes régulier dans vos efforts, Votre cœur, votre foie et vos reins vous remercieront. Votre cœur se musclera pour devenir ce que l'on appelle plus précisément un cœur d'athlète. Il deviendra donc plus fort et effectuera moins d'efforts pour pomper le sang. Cela se traduira par une baisse de la fréquence cardiaque au repos, environ 30 à 40 battements par minute pour un cœur bien costaud, au lieu de 70 à 80 battements par minute pour un cœur normal, ainsi qu'une légère augmentation du volume cardiaque. Faire de l'activité physique qui vous plaît permettra également d'alléger les symptômes de vos pathologies rénales chroniques. Votre foie vous sera également reconnaissant, car la pratique régulière de sport permettra de brûler les graisses autour de votre organe et de prévenir la stéatose hépatique. Le sport permettra aussi, en partie, de vous protéger des dégâts induits par l'alcool sur votre foie. Buvez, mais surtout courez. Enfin, la pratique d'activité physique permettra la sécrétion d'un cocktail d'hormones comprenant de la dopamine et de l'endorphine. La première étant responsable de la sensation de plaisir et de récompense, tandis que la seconde aura une action antidouleur, relaxante et permettra une sensation de bien-être. Ces deux hormones vous feront aimer ce que vous faites et vous conduiront à la plus saine des addictions, celle à l'activité physique. La pratique d'une activité physique peut avoir de nombreux bienfaits sur la santé mentale. Elle peut aider à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression, ainsi qu'améliorer l'humeur en général. Effectivement, l'activité physique peut aider à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil, deux facteurs déterminants de la santé mentale. De plus, la pratique d'une activité physique peut aider à renforcer sa confiance ainsi que son estime de soi en se fixant des objectifs et en les atteignant. Elle permet également d'apaiser les symptômes de certaines maladies mentales comme la schizophrénie et les troubles bipolaires. Enfin, la pratique de sport en club permet de sociabiliser et de se connecter avec d'autres personnes dans un objectif commun.
Et physiquement, alors qu'est-ce qui se passe pour nous ?
Nous sommes tous d'accord que pour savoir utiliser son corps correctement, il faut savoir comment il fonctionne, et donc il est important d'avoir les connaissances de base sur le fonctionnement musculaire et les types d'énergie utilisés par ce dernier. Comme vu précédemment sur la nutrition, différents substrats peuvent servir aux muscles. Les deux principaux substrats sont les glucides en premier et les lipides en second. Il faut savoir que les muscles possèdent leur propre stock de sucre, donc pour les activités quotidiennes, l'énergie nécessaire est déjà prête à l'emploi. De plus, le corps ne trouve pas trop de mal à l'utiliser puisque la glycolyse, qui est la dégradation du glucose, est moins énergivore que la lipolyse. La lipolyse, elle correspond à la deuxième source d'énergie pour le muscle. Cependant, elle est mobilisée par l'organisme qu'en second recours. C'est-à-dire que pour taper dans ses réserves et consommer ce gras, il faut que le corps soit poussé hors de ses limites et qu'il ne puisse plus puiser d'énergie dans le sucre. Néanmoins, l'utilisation de cette source d'énergie est très énergivore, mais elle a comme avantage d'apporter plus d'ATP que la glycolyse dans son bilan final. L'ATP en soi, elle correspond à l'incarnation de l'énergie dans le corps. Et vraiment, en dernier recours, le corps peut utiliser les protéines musculaires. On parle alors ici de protéolyse, il s'agit vraiment de l'étape ultime. Il existe deux types d'exercices physiques qui sont utilisés différemment en fonction des activités. On a les exercices statiques et dynamiques. Pour donner un exemple simple, pour porter un lourd sac de course le temps de rentrer chez soi, c'est un exercice statique. Il faut contrôler la force de contraction et d'extension qu'on met dans les différents muscles du bras. Par contre, pour soulever le sac du sol à votre coffre de voiture, il s'agit d'un effort dynamique et on retrouve des sports à prédominance statique comme la musculation, d'autres à prédominance dynamique comme le foot. C'est pour ça qu'en cas d'inactivité physique, on peut observer des changements morphologiques au niveau de l'organisme. Premièrement, on retrouve des altérations au niveau cardiovasculaire comme nous l'a dit Christopher précédemment. Deuxièmement, ce qu'on peut observer très vite, c'est l'atrophie musculaire qui se développe d'ailleurs plus vite que l'hypertrophie pendant la musculation. Ce qui se passe réellement, c'est que les muscles entrent dans un état catabolique, c'est-à-dire de destruction des fibres musculaires. Dans ce cas, on observe des pertes de masse musculaire et de volume, ce qui résulte en une diminution des forces et des fonctions. En effet, le corps ne garde pas ce dont il n'a pas besoin, donc il ne prend pas la peine de le vasculariser aussi abondamment que d'habitude. Il peut s'en suivre des phénomènes conséquents tels que l'ostéoporose. C'est l'apparition de pores dans les os, témoignant d'une certaine fragilité qui s'explique en effet par le fait que les muscles tirent sur les os pendant qu'ils sont en action, ce qui participe au bon remodelage continu de l'os. Troisièmement, cela concerne plus les femmes, mais lors de la ménopause, on observe également des phénomènes d'ostéoporose provoqués par les perturbations hormonales. Ces phénomènes peuvent se surrajouter aux éléments qu'on a déjà cités sur la sédentarité et l'activité physique. En effet, il y a une fragilité qui s'ajoute et une plus grande tendance à accumuler les problèmes de santé, d'où l'importance de préserver son capital tant qu'on est jeune. Une chose très simple et facile à implémenter au quotidien qu'on peut vous proposer pour sortir de ce cycle de sédentarité, c'est l'étirement. Prendre le temps de 10 minutes par jour de s'étirer, par exemple avant de dormir, en plus de faciliter l'endormissement, ça vous permet également de mobiliser vos muscles, vos tendons et vos articulations. Pratiquer régulièrement et notamment après un effort, les étirements permettent de réoxygéner les muscles et réduisent les risques de blessures. S'étirer permet aussi de diminuer les tensions musculaires qui peuvent s'accumuler au cours d'une journée à cause du stress, et ces tensions musculaires peuvent provoquer diverses douleurs telles qu'un mal de dos ou une cervicalgie.
Et que conseillez-vous pour nos enfants ?
La sédentarité touche de plus en plus de jeunes, comme on l'avait dit avec les chiffres du début. À quoi c'est dû ? C'est vrai que quand on pense aux enfants, on se dit qu'ils sont dynamiques, qu'ils jouent beaucoup dehors, etc. On a l'impression que ça devient de moins en moins vrai, surtout que les enfants ont souvent des téléphones dès l'école primaire pour certains. Le but n'est pas de culpabiliser ou d'interdire. Les recommandations indiquent que le temps d'écran pour les 8-10 ans ne doit pas dépasser 45 minutes par jour. En tant que parent, il est souhaitable de limiter cette tendance au maximum en invitant l'enfant à essayer d'autres activités, à faire des pauses, à jouer dehors, à lire, etc. En tant qu'adultes, nous sommes des modèles pour nos enfants, et sur ce sujet également. Il faut qu'on apprenne à voir le corps comme un investissement, un trésor à protéger. Mal manger et ne pas bouger revient à dilapider son capital santé, sachant qu'il est irremplaçable.
Très bien, on a appris plein de choses durant cette chronique, Aude.
Tout à fait, Marlène. Merci pour votre travail.
Merci à vous de nous avoir invités.
Je rappelle que nous avions autour de cette table aujourd'hui avec Aude, nous avions Christopher, Abdenour et Fatima, étudiants en médecine. Merci à vous.
Merci à vous, c'est un plaisir.
On se retrouve, Aude, pour une prochaine chronique dans quelques semaines avec cette fois-ci comme thème.
Natacha Desson, sage-femme, autour du thème du suivi gynécologique et la prévention.
Très bien, à bientôt et bonne écoute sur Radioactive.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.